Alors vous avez vu, j'ai mis en titre, hein, donc de la foi de Marie-Joseph, ce que lui-même disait à un moment, dans une très grande gratitude, hein, le bon Dieu m'a donné une grande foi, heureusement j'ai la foi. Comme le Saint-Père l'a écrit dans le titre de son encyclique, qui est sorti la vendredi, la lumière de la foi. On peut dire que le Père a vécu toute sa vie, y compris depuis son plus jeune âge, dans cette lumière de la foi qu'il a reçue en fait de par le Seigneur dans sa famille. Et cette foi, il en était un témoin ardent pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont vu, hein, de leur vie, de son vivant. On était quand même saisis. Moi, je sens en fait que c'est ce qui m'a aidé vraiment à progresser dans la foi moi-même. C'est quand je l'ai vu comme jeune, dans mon premier pèlerinage avec la JF, c'était en 86 à Altötting. Je n'avais jamais entendu un prêtre parler de Jésus comme il parlait de Jésus, finalement. Et on sentait, et je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué, que quand il parlait du nom de Jésus, parce que j'étais tout prêtre, mais il nous décrivait une relation, en fait. Donc on percevait sa relation avec le Seigneur dans son enseignement, et je crois que c'est ça qui touchait et qui évangélisait, et c'est ce à quoi on est tous appelés finalement, à être de plus en plus en relation avec le Seigneur, et c'est ça qui rendra crédible et qui touchera le cœur de ceux à qui on parle. Et puis je me souviens aussi quand il était à genoux à la chapelle, malgré son grand âge, hein, il avait déjà plus de 80 ans quand je l'ai connu, la prière du matin, il se mettait à genoux devant le tabernacle. Et puis après, il lançait la prière du matin, mais de voir donc ce vieillard humblement prosterné au pied du Seigneur, il n'y avait pas de plus grand témoignage de foi. Alors on va parler de sa foi, donc du coup, à travers effectivement quelques témoignages de ce type-là, mais aussi à travers ce que lui-même nous en a donné, à travers ses enseignements, ou ses lettres, et donc la plupart viennent d'être la joie de Dieu. Le Père Marie-Joseph dit par exemple à la page 33 de ce livre, « La foi, c'est la lumière de la vie. Celui qui n'est pas dans la lumière du Christ est dans les ténèbres. » Effectivement, soit il y a de la lumière, soit il y a de l'obscurité. Et la foi, c'est vraiment cette lumière qui éclaire l'ensemble de notre vie, du monde, de toute la création. Et le Père Marie-Joseph disait que ce qui illumine notre nuit, c'est la foi en Jésus, et non la foi en nous-mêmes ou en nos dons. Alors ça, il le disait plus à la fin de sa vie, quand lui-même traversait la nuit de la foi. On reparlera plutôt à la fin de cet exposé de la nuit de la foi, qu'est-ce qu'elle a été pour lui, et comment il a tenu bon. Parce que c'est vrai que là, pour lui, comme pour chacun de nous, la foi est un combat, il ne faut pas l'oublier. Même si c'est sûr que c'est un don de Dieu, et il dit j'ai reçu une grande foi de la part du Seigneur, n'empêche qu'il a combattu le bon combat de la foi, à tel point qu'il avait voulu, je crois que c'est lui, que dans ses funérailles, on lise la très belle parole de saint Paul dans la 2e à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 7. « Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » C'est 2 Timothée 4, 6 à 7. Oui, le combat de la foi, c'était le sien, c'est le nôtre. C'est pour ça que c'est important de nourrir notre foi en cette année de la foi, qui est une grande grâce pour toute l'Église. Et je vous exhorte vraiment, maintenant qu'elle est parue, bien à lire cette première encyclique du pape François, qui s'appelle « La lumière de la foi », et qui nous montre là aussi la foi du pape, puisqu'il a eu confiance aussi en son prédécesseur. Vous verrez cette encyclique, je l'ai un petit peu parcourue. On retrouve vraiment Benoît XVI à travers la façon de s'exprimer, le lien aussi brûlant entre la foi et la lumière, entre l'amour et la foi. Vous retrouverez vraiment l'expression de Benoît XVI, et je trouve que c'est un bel acte d'humilité qu'a fait le pape François, et bien de reprendre ce texte qui avait déjà été préparé par Benoît XVI, d'y ajouter juste quelques lignes, mais je ne pense pas qu'il ait fait davantage. Et c'est un texte vraiment qui peut nourrir notre foi, et je trouve, vous allez le voir maintenant que je vais parler du Père Marie-Joseph, vous allez voir d'une grande ressemblance. Alors c'est pas étonnant parce que Benoît XVI peut dire a eu un peu le même itinéraire que le Père Marie-Joseph. Donc, je crois que Benoît XVI, sa maman était tertiaire, dont les deux parents du père étaient tertiaires. Et puis il a aussi comme étudiant travaillé Saint-Bonaventure, Benoît XVI. Et le Père Marie-Joseph, dans sa formation de Capucin, est aussi passé par l'école, bien sûr, de Saint-François, exprimé à travers l'enseignement de Bonaventure. Et du coup, on voit ce même lien entre l'amour et la foi, finalement, chez les deux. Et je trouve que ça se complète très très bien. Je vous lis par exemple ce que Mgr Dornelas dit dans le communiqué qui annonce la publication de cette encyclique. La foi n'est pas fuite du monde, mais lumière pour les hommes qui s'interrogent. Vers où allons-nous dans la nuit ? Se référant à saint François d'Assise baisant le lépreux, le pape François écrit « La foi n'est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit. La foi est lumière de l'amour, d'un amour qui est à l'origine et qui est capable de garantir la vie au-delà de la mort. » Et vous verrez qu'un grand thème de l'encyclique, c'est « La foi naît de l'amour ». Et c'est ce que le père Marie-Joseph a vécu lui-même en contemplant le Dieu amour. Et ce sera le premier point de cette intervention. À l'école de Saint-François et de Saint-Bonaventure, il a vraiment, de par ses parents déjà, qui étaient à sœur de Saint-François, donc il a plongé dans le charisme de François dès sa naissance, mais après il l'a étudié, et alors il a vraiment retenu cette image du Dieu qui est le souverain bien, qui est le bien total, comme dit Saint-François, qui est tout bien, tout le bien, le vrai, le souverain bien. Comme dit Ilia Delio dans son livre « L'humilité de Dieu », c'est une religieuse franciscaine, « Dieu est bonté débordante ». Et François, dans les nombreux noms, saint François, dans les nombreux noms qu'il a utilisés pour désigner Dieu, miséricordieux, doux, aimable, suave, juste, saint, droit, innocent, pur, celui qui se détache vraiment des autres, c'est le terme « bon ». Et on sait combien le père Marie-Joseph aimait cette expression « le bon Dieu ». Dieu est bon, il n'est que bonté, et une bonté débordante et qui se communique. Et François d'Assise a découvert cette bonté de Dieu dans une rencontre personnelle avec lui. Il a rencontré le Dieu d'amour personnel. Vous le connaissez un petit peu déjà, bien sûr. Il y a d'abord la prière devant le crucifix de Saint-Damien, hein, où François vraiment prie longuement devant le Christ de Saint-Damien, dans les églises, au moment de sa conversion. Il y a eu cette rencontre personnelle avec le lépreux, qui pour saint François était l'image du Christ. Et puis après, dans l'événement du revêtement du manteau par l'évêque d'Assise, François a vraiment eu ce contact personnel avec le Père en disant « Maintenant je ne dirai plus mon Père Pierre Bernardone, mais notre Père qui est aux cieux. » Et vous voyez combien François a été conduit de Jésus au Père, toujours dans des rencontres personnelles. Et quand je dis rencontre personnelle, et Benoît XVI a beaucoup insisté dans le texte qui est au verlet de la foi, qui s'appelle la porte de la foi. C'est intéressant, hein, on est entré par la porte de la foi il y a quelques mois, et maintenant on est dans la lumière de la foi, avec l'encyclique. Donc les deux textes vraiment se suivent et se complètent. Et bien Benoît XVI disait que la foi est toujours le fruit d'une rencontre personnelle. Alors, on peut me faire cette objection. Oui, mais moi je ne suis pas comme saint Paul, Jésus n'est pas apparu, il ne m'a pas parlé, j'ai pas reçu une lumière. Ou... Eh bien, quand on dit rencontre personnelle, il faut savoir que chaque fois qu'on pose un acte de foi, chaque fois qu'on entre en relation avec le Seigneur, c'est une rencontre personnelle. Chaque fois qu'on dit « Mon Dieu, je crois en toi, je te fais confiance, je t'aime, je t'espère », eh bien tout ça, vous voyez, ce sont des rencontres personnelles. Hein, donc ne rêvons pas forcément de rencontre à la Saint-Paul, ça c'est le mystère de Dieu qui donne sa grâce comme il veut et à qui il veut. Mais il nous a tous donné la grâce de la foi, on l'a au baptême, et nous avons à l'exercer. Et l'Écriture dit, Dieu ne refuse pas de se manifester à celui qui croit en lui. Alors croyons, et on verra avec le père Marie-Joseph tout à l'heure, que c'est en faisant des actes de foi de plus en plus, qu'on entrera de plus en plus dans le cœur de Dieu et qu'on le connaîtra intimement et que la rencontre deviendra de plus en plus personnelle. Mais elle est personnelle dès le départ, vous voyez. Réciter simplement le credo le dimanche est très précieux, mais ça ne suffit pas. Parce que vous voyez, on s'adresse encore à la troisième personne. Hein, c'est plus une catéchèse, le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en son Fils unique Jésus-Christ. Mais la foi, c'est à la fois le contenu, mais c'est aussi le don de soi. Je crois en toi, Seigneur. C'est l'attachement à la personne. Il y a toujours les deux aspects dans la foi et qu'il faut toujours lier. Si on détache notre adhésion au Christ, notre relation personnelle à lui, si on la détache du contenu de la foi, on risque de se fabriquer un Jésus à notre mesure, finalement. Or, mais par contre, l'inverse est vrai aussi. Si on récite que le credo, je dirais comme une poésie qu'on a appris par cœur, On n'a pas encore fait l'acte d'adhésion personnelle à lui, donc il faut vraiment les deux. Et le Père Marzen nous l'a souvent enseigné, et ça va aussi se dégager des textes que je vais vous citer au fur et à mesure. Et je reviens donc à cette expérience du Dieu d'amour, du Dieu comme bonté souveraine qui se communique. Ça aussi c'est proprement franciscain, de voir qu'en Jésus, on a, comme dit toujours cette sœur Delio, on a toute l'expression de l'amour du Père en Jésus. François, Bonaventure n'ont jamais détaché la personne de Jésus du Père et de l'Esprit-Saint, bien sûr, qui est le lien entre les deux, le lien éternel entre les deux. Et donc, quand François regarde Jésus, eh bien, il regarde la bonté du Père qui est exprimée en Jésus. C'est la phrase du Christ, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et plus on va regarder juste dans l'Évangile, qui est nourriture de notre foi, et Dieu sait si Sainte Marie nous a invité et insisté pour qu'on trouve au moins les 5 minutes de lecture de l'Évangile dans la journée, c'était pour découvrir justement ce Dieu bon, ce Père éternel qui s'exprime en son Fils, en Jésus. Et cette bonté débordante, donc vous voyez, c'est comme une fontaine. Le Père est la source jaillissante de bonté, et cette source jaillissante se retrouve éternellement dans le Fils. Le Fils est l'expression en personne de cette source, de cette fontaine jaillissante de bonté et d'amour. C'est comme une cascade, et cette cascade, elle va jusqu'à l'abaissement de Jésus dans l'incarnation. Il se fait homme, il s'abaisse encore plus jusqu'à la croix, et François regarde cet abaissement jusque dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça que la foi du Père Marie-Joseph a été très eucharistique, comme la foi de Saint François, comme la foi de Saint Bonaventure et de toute famille franciscaine. Parce que là, on voit ce débordement d'amour en cascade, vous voyez, qui va jusqu'à se rendre présent dans l'Eucharistie, dans cette humilité d'une petite hostie de pain qui devient la présence réelle du Seigneur, de majesté. Et dans l'Eucharistie, si vous prenez par exemple dans les feuilles que vous avez mises, donc c'est le dernier texte de la page 2, le Père nous dit, pourquoi est-ce que Jésus a institué l'Eucharistie? Il a bien su que c'est autrement plus difficile de l'adorer quand il est lointain que lorsqu'il est proche, qu'il est présent. Hein, c'est l'amour qui aime à se rendre présent à celui qu'il aime. C'est là le mystère de la foi. Hein, donc le mystère de la foi. C'est comme quand on dit à la fin, juste après la consécration, il est grand le mystère de la foi. Vous voyez que toute notre foi se résume, s'exprime dans l'Eucharistie. Et entre parenthèses, c'est pour ça que c'est vital d'aller à l'Eucharistie le plus souvent possible, et qu'on s'y engage quand on est franciscain séculier, même en semaine, parce que c'est là que notre foi va être le plus nourrie par cette bonté de Dieu qui s'expérimente et qui s'exprime dans chaque Eucharistie. Il est grand mystère de la foi, pour tous les saints, et d'une manière toute spéciale pour François, l'Eucharistie était le cœur de la foi. Et la dernière ligne, mystère de foi, mystère d'amour, Jésus est là uniquement dans un excès d'amour pour chacun de nous, et il savait très bien ce qu'il allait encourir. L'Eucharistie exprime toute la foi catholique finalement, et elle la rend présente sous nos yeux dans la personne de Jésus, donc qui s'abaisse pour venir nous rejoindre, pour nous aimer, pour être là pour nous et pour nous saisir avec lui et nous faire remonter au Père. Et vous voyez que dans l'Eucharistie, il y a le mouvement de descente et le mouvement de remontée, quand le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant ». Donc on est saisi dans ce mouvement de remontée. Jésus nous prend par la main pour nous faire aller au Père dans chaque Eucharistie, et après pour nous envoyer en mission, aller dans la paix du Christ. Il y a Delio dit aussi que Dieu est un mystère de personnes amoureuses. Le Père est amoureux du Fils, le Fils est amoureux du Père, et l'Esprit-Saint est cette relation amoureuse en personne. L'amour a besoin d'être partagé, la nature de Dieu est de partager l'amour. Et bien là aussi, Dieu sait si le Père Marie-Joseph et bien a été nourri par cet amour trinitaire et nous a demandé d'avoir cette relation aimante, amoureuse, avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit-Saint. On verra cette relation amoureuse, elle est aussi filiale. Mais je me souviens, par exemple, ça m'est frappé dans mon parcours vocationnel, à un moment, il nous avait dit, à ceux qui se préparaient au sacerdoce, donc Vincent et quelques autres à ce moment-là, Il nous avait dit, vous savez, le célibat du prêtre, on peut le tenir uniquement si le prêtre est un amoureux de Jésus. Et c'est pareil pour la vie consacrée. Si on n'est pas amoureux de Jésus, du Christ, on ne peut pas tenir bon dans le célibat, dans la vie consacrée. Mais cet amour n'est pas réservé aux personnes consacrées. Et quand j'avais rencontré Benedetto Lino, donc qui est un laïc franciscain qui travaille à Rome, donc qui est marié, hein, papa, grand-père, il nous disait combien pour lui, sa profession dans l'ordre franciscain séculier avait été une expérience amoureuse du Seigneur. Et il aimait aussi beaucoup Jean de la Croix, parce que Jean de la Croix a réussi à mettre en lumière, et avec des mots, finalement, l'expérience de François, cet amour, cette relation amoureuse avec Jésus. Et n'oubliez pas que François d'Assise, dans sa règle justement pour les premiers tertiaires, au stade de la pénitence, nous dit que notre âme est épouse de l'Esprit-Saint. Donc il y a cette relation amoureuse qui va être encore plus approfondie par une profession dans l'ordre franciscain séculier. Saint Bonaventure considère Dieu à la fois comme le très haut, altissime, et piissime. Ça veut dire le très pieux, mais il faut bien comprendre le mot pieux. Hein. Il a été un peu dévalorisé ce mot. Dans le Moyen-Âge, le mot pieux, ça exprime toute la bonté. Toute la bonté miséricordieuse. Quand Saint Bonaventure dit que Dieu est très pieux, ça veut dire qu'il se penche amoureusement, il fait déborder cette bonté sur chacun de nous et dans toute la création. Et il y a des lieux dit, vivre dans le mystère de Dieu, c'est vivre entre la transcendance totale de Dieu et son étreinte personnelle. Donc c'est le même Dieu dont je vénère la majesté, la souveraineté, la transcendance absolue, et en même temps l'étreinte personnelle, le très haut qui se fait le très bas pour nous épouser, pour nous étreindre. Et ça aussi le Père Marie-Joseph nous l'a communiqué dans son respect du bon Dieu. Il nous disait souvent à la fin de sa vie, si j'ai qu'un mérite mes enfants, c'est d'avoir pris le bon Dieu au sérieux. Et il a envoyé tout ce respect de Dieu qu'il avait. C'était vraiment un homme de Dieu, il avait le sens de Dieu. Et c'est le même Père Marie-Joseph qui nous parlait du bon Dieu comme le papa qui se penche amoureusement sur ses enfants, et bien pour les aider, quelles que soient leurs épreuves, pour les relever, les encourager. Et cette bonté de notre Père du Ciel, on l'expérimentait quand on rencontrait le Père Marie-Joseph. Pour ceux qui ont la grâce de se confesser à lui ou de l'avoir comme Père spirituel, on se souvient quelle paix on recevait une fois qu'on l'avait quitté. Et bien c'est la paix du Père des cieux qui se penche sur nous, sur chacun de ses enfants. Et ce Père qui aime d'un amour maternel. Et là aussi, Didier Rance nous avait fait un enseignement l'an dernier sur la Vierge Marie, que le Père aimait appeler la maman du ciel. Et bien, je suis tombé sur un texte, je ne voulais pas photocopier malheureusement, mais c'est un peu son credo, on le parcourra tout à l'heure. Et il dit que la Vierge Marie, en fait, c'est l'expression maternelle de l'amour de Dieu pour nous. C'est très fort. Je n'avais jamais lu ça, même chez des théologiens. Et ça ne m'étonnerait pas que le Père nous enseigne aussi en théologie, même s'il n'était pas théologien lui-même. Mais de voir en Marie l'expression de cet amour maternel, de cette composante maternelle de l'amour de Dieu pour nous. Et le Père nous demandait souvent d'être même des bébés dans les bras de la Sainte Vierge. Pas pour qu'on redevienne, pas pour nous infantiliser, bien sûr. Parce qu'en même temps, il nous demandait d'être des adultes dans la foi et de plus être dans les souliers des petits-enfants, c'est son expression, pour qu'on soit vraiment adulte et responsable. Mais pour être adulte et responsable, il faut apprendre à se mettre dans les bras du Seigneur et dans les bras de Marie, se laisser faire, se laisser aimer. Et la grâce de la foi, pour lui, c'est d'abord, du coup, une foi confiance filiale. Je crois que si on retient un mot pour caractériser la foi du Père Marie-Joseph, c'est ce mot confiance filiale et aimante. Et là aussi, on est vraiment dans la grande tradition franciscaine où la foi n'est pas d'abord une connaissance, elle l'est aussi, hein, puisqu'on apprend à connaître Dieu par la catéchèse par exemple, mais elle est d'abord amour chez les enfants de Saint François, la foi. Bonaventure dit, là où la science des maîtres reste au dehors, l'affection de celui qui aime s'introduit au-dedans. C'est par notre amour, notre affection qu'on entre en Dieu et qu'on le connaît alors. Et c'est après que du coup que notre intelligence s'enrichit aussi de cette lumière. Mais c'est l'amour qui va pénétrer en Dieu. Thomas de Celano percevait que c'est l'amour et non la connaissance qui permet à saint François d'entrer dans le grand mystère que nous appelons Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour le père Marie-Joseph. C'était parce que sa foi était confiance aimante en Dieu, qu'elle était mue par l'amour, et bien qu'il a pu avoir cette si grande foi finalement et nous la transmettre. Et alors là, ben, vous avez tous ces textes, je ne peux pas les mettre tous tellement il y en a partout. Hein. Dans tous ces écrits, vous trouverez le mot confiance, amour, confiance filiale, courage et confiance. Ça revient régulièrement. Mais je vous ai mis donc le deuxième texte à la page 1. C'est des extraits, mais qui nous dit bien cela. De plus en plus, dans la confiance filiale envers le bon Dieu par la foi, nous sommes ses enfants, il est notre Père. Dieu est amour infini et immense miséricorde. Il est Père. C'est tout dire, là est la base de notre confiance assurée et de notre bonheur intérieur. Et cette confiance filiale qu'il avait en Dieu Père, il l'avait aussi en Jésus, le Fils qui exprime le Père. Tu es là et tu m'aimes, devant l'Eucharistie. Et s'il est une chose à laquelle un cœur aimant ne peut se fermer, c'est la confiance. S'il y a une seule chose à laquelle Jésus ne peut se refuser, c'est notre confiance, parce qu'il est l'amour. Une confiance illimitée. La confiance est avant tout une affaire de volonté, basée sur les raisons que nous donne la foi. Donc, coûte que coûte, gardons intacte, inébranlable cette confiance. Vous voyez, j'ai mis en gras. Tout ce qui est en gras, c'est moi qui l'ai ajouté. Vous voyez, la confiance, c'est avant tout une affaire de volonté et pas d'intelligence. Vous voyez, les raisons de croire viennent après. C'est comme la petite Thérèse, je crois ce que je veux croire. Et c'est là qu'on voit que la foi est une affaire d'amour. Et je crois que c'est important, surtout pour notre époque où on veut tout vérifier, je crois qu'on peut vraiment aider les gens et nous-mêmes en les aidant à poser un acte d'amour dans les personnes, bien sûr qu'ils rencontrent, mais en Dieu aussi. Seigneur, tu vois, je pressens bien qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, hein. C'est ce que disent la plupart de nos contemporains, qui sont pas athées, hein. La plupart sont agnostiques, on peut dire. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose, mais on lui donne tous les noms, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, si dans l'évangélisation, on les invite à poser déjà un acte d'amour en cet être qui est au-dessus de nous et en nous, on peut vraiment les aider à peu avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Et après, bien sûr, et sans être séparés, viennent les raisons de croire. Le Père souvent nous a mis en garde contre le sentimentalisme. La foi, elle est basée sur des raisons objectives. Elle n'est pas que subjective. Il y a une part effectivement de subjectivité dans la foi. On est des êtres personnels qui ont une relation personnelle. Et donc chacun de nous ne vit pas la foi de la même manière. Et c'est une grâce, hein, c'est un trésor. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se partager en fraternité, en cordée, eh bien, les merveilles de Dieu. Parce qu'alors on s'enrichit, vous voyez, de la relation de foi de mon frère ou de ma sœur. Donc il y a cette dimension subjective qui est très importante, mais elle est fondée sur l'objectif qui est la révélation de Dieu, transmise par sa parole, l'écriture, et authentifiée par l'Église qui nous transmet à temps et à contre-temps l'enseignement du Seigneur lui-même, la parole de Dieu. Je vais y venir un instant, non, je crois que je peux l'aborder maintenant. Le Père avait vraiment le souci constant, effectivement, que notre foi soit ancrée sur la parole du Seigneur, sur la vérité, sur ce qui est vrai. Je ne vous ai pas mis ce texte-ci. Regardez, donc, c'est toujours dans le deuxième texte, hein, là, la foi confiance aimante en acte, au milieu. Et si des fois c'est si pénible de se mettre dans la véritable atmosphère, donc celle du bon Dieu, hein, eh bien, malgré tout, faites les actes de foi en la présence de Jésus. Et dites à Jésus, conformément à cette foi, j'ai confiance malgré tout et je vous aime de tout mon cœur. Donc, conformément à la foi qui me dit, Seigneur, que toi tu es là dans l'Eucharistie, puisque tu l'as dit, ceci est mon corps livré pour vous. Donc, je m'appuie sur ta parole, qui est bien plus grande, qui dépasse mon intelligence, ma petite intelligence créée. Et donc je m'appuie sur cette foi pour te dire, j'ai confiance en toi, je crois en toi, tu es là, et je t'aime de tout mon cœur. Donc là, c'est la foi subjective qui s'appuie sur la révélation objective que je reçois humblement. Mais vous voyez que pour croire, il faut être humble. Il ne faut pas se prétendre se suffire à soi-même. Et la foi, on la reçoit de plus loin que nous, de plus grand que nous. Et on n'a pas à la vérifier, mais on a à la vivre, et en la vivant, on va l'expérimenter. Et alors après, la lumière se fera et les raisons de croire viendront. Le texte suivant, pour vivre en chrétien convaincu et sérieux, il faut de la clarté dans l'esprit, des certitudes fondamentales. Eh bien, notre foi s'appuie sur du solide. Le témoignage, parole de ceux qui ont vu et entendu, les apôtres, les disciples, les premières générations chrétiennes, ceux qui sont tout près de la source, tout près des origines. Et puis dans ce témoignage, il y a la figure de Pierre qui émane, lui à qui Jésus a confié l'Église, et qui a construit l'Église sur la foi de Pierre, le roc suprême du bercail. Solidement établi sur ce roc, nous vivions d'une foi simple et droite, lucide et lumineuse, ferme et vigoureuse. Alors cette foi dans la bonté qui se communique du bon Dieu, dans cet amour infini dont on est aimé, elle ne s'oppose pas non plus à notre désir de comprendre, de chercher, de faire de la science. Elle ne s'oppose pas non plus au progrès technologique. Vous avez un autre texte en tournant la page. L'intelligence de la foi. C'est l'avant-dernier. Le bon Dieu m'a donné très tôt une très grande grâce, que d'ailleurs j'ai apprise en partie de mon papa, et plus tard dans mes études de philosophie, et plus tard encore mieux dans les études de théologie. Quand je sortais le dimanche après-midi comme petit garçon, on se souvient bien depuis hier où c'était, ma main dans la main de mon papa, on allait dans les champs près de Strasbourg. Je vois encore mon père quand il regardait la nature comme ses yeux brillaient. J'ai vu cela comme enfant. C'était comme une sensation de l'œuvre de Dieu. Et plus tard dans les études, en philosophie, il y a une thèse magnifique. Tout ce qui se trouve de grand et de beau dans la création se trouve en Dieu. Or, aujourd'hui, la science actuelle de plus en plus fait des progrès énormes. Et certains savants sont assez honnêtes pour reconnaître qu'on est affronté au mystère de Dieu. Et il citait souvent cette phrase de Pasteur, un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous rapproche de Dieu. Parce que le scientifique qui est honnête, eh bien plus il avance dans ses recherches, plus il voit l'intelligence, la grandeur des choses qui le dépassent lui-même. Et vous voyez, c'est une très belle voie d'accès à l'existence de Dieu par la raison, de faire de la science. Et donc science et foi ne s'opposent pas. Et le père lui-même a été un homme de science. Je l'avais déjà un petit peu mesuré, parce que comme hier, par exemple, il faisait appel, je me souviens une fois, aux frères de Jean-Paul et Jean-François, qui sont astronomes et travaillent dans l'astronautique, je crois.
L'astronautique
et nucléaire, voilà. Et donc, les frères nous ont parlé de l'atome, de l'astronautique, etc. Parce que le père voulait que, comme jeune, on voit bien que la science ne nous éloigne pas de Dieu, mais qu'elle explore le comment des choses et qu'elle ouvre la porte à la question de l'origine. Vous voyez, science et foi vont ensemble, mais ne sont pas sur le même niveau. Et c'est quand on est sur les mêmes niveaux qu'on les oppose. Non, tout ce qui est de l'ordre de la foi nous dit l'ordre de l'origine et de la finalité. La science nous dit le comment, la manière. Et le père aimait beaucoup la science. À Munich, je me souviens, au premier PDG qui nous avait aussi emmené au... Il y a un grand centre, un musée d'histoire naturelle, je crois. Et il y avait aussi des expériences scientifiques qui étaient faites dans ce musée. Et puis là, il nous dit dans un texte... pour ceux qui ont le livre, « Être la joie de Dieu », c'est à la page 271, vous le trouverez. J'ai appris quand j'étais jeune un tout petit peu d'astronomie, des notions essentielles, fondamentales. Qu'est-ce que le soleil? Combien il y a d'étoiles connues? Aujourd'hui, on retrouve des galaxies entières. Et le système solaire, rien que notre petit soleil, mais c'est énorme. Ça me suffisait. Je n'avais pas la vocation d'être un astronome, mais ces choses m'ont toujours passionné, parce que la création parle de Dieu. Un peu plus loin, les savants ne le disent peut-être pas, mais c'est vrai quand même, parce que ici vit l'homme. Je sais que bien plus d'une fois, nos soi-disant professeurs enseignent que l'homme est le pur produit de l'évolution. C'est faux. Qu'il y ait une évolution, ça c'est autre chose. Mais que l'homme soit le produit de l'évolution et qu'il n'y ait rien eu au début, ça ne tient pas. Le hasard, ça ne tient pas. Quand je vois quelque chose, ça a une origine. Que de fois je vous l'ai dit, malheureusement je ne suis pas assez compris. Comment voulez-vous marcher dans votre vie si vous n'avez pas des bases solides? Vous êtes exposé à tous les vents de fantaisie, des sectes, le nouvel âge. Que de gens qui adhèrent aux sectes? Il faut quand même bâtir sa vie sur du sérieux, sur de l'objectif. Et un peu plus loin, il fallait que quelqu'un soit derrière tout cela. Je ne veux pas m'agenouiller devant l'absurde, je suis trop fier, et il faut que vous le soyez. Les grosses bêtises sont gobées parce que le cœur n'est pas ouvert. Toute chose a un principe d'origine. Autre chose est l'absurde, autre chose est le mystère. Et alors il regardait effectivement toute la création, et son amour pour la science lui faisait contempler la création encore davantage, et il découvrait le Créateur à l'origine de ce qui existe. Et si vous voulez vous-même vivre cette expérience, fermez les yeux un instant, et puis prenez conscience que vous existez, que vous êtes capable de dire « je ». Moi, Monique, j'existe. Moi, Alphonse, j'existe. Je peux dire « je ». Et on se rend bien compte que ce « je », il ne vient pas de nos parents. Nos parents, ils ont bien collaboré, bien sûr, à l'œuvre de Dieu. Mais on sent qu'il y a un mystère en nous, personnel, qui nous dépasse. Et vous voyez, ça peut être une intuition pour que notre raison puisse aboutir à l'existence de Dieu. Dieu étant l'être suprême, celui qui n'est que être. Et donc ce don de l'existence, il est reçu, justement. C'est saint Thomas qui dit que créer, c'est donner l'être. Or, les parents ne donnent pas l'être. Ils collaborent, mais ce n'est pas eux qui, ex nihilo, donnent quelque chose. Ils sont les collaborateurs, mais l'être, c'est Dieu qui le donne. Et ça, c'est important quand on parle de la foi, de toujours faire le lien avec un petit peu ce qu'on appelle en philosophie la métaphysique, nous poser la question de l'origine, de l'être, de la finalité des choses. Et ça, le Père s'est posé constamment, et c'est ça qui nous aide à ne pas être fidéliste, et vraiment à articuler foi et raison, comme Benoît XVI y a tellement insisté dans son pontificat. Mais vous voyez que même quand le Père fait ça, il ne s'arrête pas de la philosophie. Ou alors il va jusqu'au bout de la philosophie, qui est l'amour de la sagesse, et alors il dit « Je vous aime, ô mon Dieu ». C'est très clair à la fin de ce texte que je vous citais tout à l'heure, hein, toujours la page 271. Je vous dis, ces choses me parlent du bon Dieu, et je n'ai pas besoin de me casser les méninges pour prier. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux. À chaque pas, on voit les merveilles de Dieu. Je vous dis très souvent, une petite fleurette de rien du tout, une brindille me parle du bon Dieu. Et surtout quand il y a un brin de soleil là-dessus. C'est beau toutes ces brindilles, c'est rien du tout. Que le bon Dieu est sage, qu'il est bon, qu'il est beau. Ô mon Dieu, ayez pitié de moi, donnez-moi de vous aimer, j'ai confiance en vous. Voilà la prière. Donc vous voyez, à peine il a contemplé l'existence de Dieu dans la création, il passe à l'acte de confiance et d'amour. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, je vous aime, vous êtes beau, grand. » Et il termine en disant, il s'adressait au JF, « Ah mes enfants, ayez donc tous les diplômes que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas le diplôme du bon Dieu, c'est-à-dire le diplôme qui vous garde le bon sens, un esprit et un cœur ouverts à Dieu, alors vous êtes à plaindre. » Même si vous gagnez une belle somme d'argent jour par jour, et même si vous êtes un professeur avec toutes sortes de diplômes, vous savez bien que je ne suis pas contre la science, au contraire je suis un assoiffé de science, mais non pas contre une certaine conception, ça c'est différent. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence de la foi que le Père avait. Et je vous cite quelques autres personnes pour confirmer, pour vous montrer combien le Père est prophétique. François Varillon, que certains ont lu, il a inspiré vraiment la génération avant la mienne avec son livre « Un joie de croire, joie de vivre », un jésuite. Et il nous dit « La foi chrétienne fait de nous des adversaires de l'absurde ou du non-sens et des prophètes du sens. » Je crois que c'est encore plus valable aujourd'hui, ou comme le disait récemment le canal 23, avec la question du mariage homosexuel, et le débat que ça a un peu suscité, on voit bien qu'on est dans des significations différentes. On est dans deux ordres de signification et on n'arrive plus à s'entendre. Et donc c'est important que nous, chrétiens, on accepte d'être dans un autre ordre des choses et qu'on en témoigne. En espérant justement que la conscience de l'autre et la raison de l'autre, qui reste, puisqu'il est fait à l'image de Dieu, eh bien, puisse être touchée par ce sens qui va s'opposer au non-sens et à l'absurde. Et François Varillon dit donc qu'elle nous fait, la foi chrétienne nous fait des adversaires de l'absurde ou du non-sens, des prophètes du sens. Il ajoute, si vous préférez, des témoins du sens. Témoins, c'est martyr en grec. Être chrétien, c'est pouvoir donner un deuxième sens, beaucoup plus profond, à ce qui a déjà un sens, comme l'amitié, l'amour, la culture, la musique, même la simple camaraderie. Et c'est pouvoir donner un sens à ce qui n'en a pas. On trouve le sens, effectivement, en nous ouvrant aux autres. Dans son encyclique, le pape François et Benoît XVI derrière dit « Dans de nombreux domaines de la vie, nous faisons confiance à d'autres personnes qui ont des meilleures connaissances que nous. Nous avons confiance dans l'architecte qui construit notre maison, dans le pharmacien qui nous présente nos médicaments pour la guérison. On ne peut pas vérifier si le médicament a toutes les bonnes molécules qu'il faut. Il y a une confiance a priori au pharmacien. Dans l'avocat qui nous défend au tribunal. Nous avons également besoin de quelqu'un qui soit digne de confiance et expert dans les choses de Dieu. Eh bien, Jésus, son Fils, se présente comme celui qui nous explique Dieu. La vie du Christ, sa façon de connaître le Père, de vivre totalement en relation avec lui, ouvre un nouvel espace à l'expérience humaine et nous pouvons y entrer. » Ça, c'est dans Lumen Fidei, donc au numéro 34. Et François dit, ajoute, « Le regard de la science tire ainsi profit de la foi. Cela invite le chercheur à rester ouvert à la réalité dans toute sa richesse inépuisable. La foi réveille le sens critique. » Vous voyez, la foi s'oppose à l'absurde. Elle réveille le sens critique dans la mesure où elle empêche la recherche de se complaire dans des formules et l'aide à comprendre que la nature est toujours plus grande. En l'invitant à l'émerveillement devant le mystère du créé, la foi élargit les horizons de la raison pour mieux éclairer le monde qui s'ouvre à la recherche scientifique. On pourrait dire que c'est Père Marguerite qui a écrit ça. Vous voyez, cette proximité entre le pape François, Benoît XVI et puis tout ce que le Père nous enseignait, parce que c'est la même source ecclésiale et on peut dire franciscaine de la foi. Et on sait que même les scientifiques, dans leurs recherches, doivent poser des actes de foi. Hein, quand un scientifique émet une hypothèse, il doit avoir confiance que cette hypothèse peut être vraie. Et donc il donne foi à son hypothèse, et après il va faire son expérience qui va confirmer ou non l'hypothèse. Mais vous voyez, même l'acte de foi, il est simplement humain avant d'être chrétien. Et le Père, en parlant de la foi confiance, nous donne aussi une très grande richesse sur la confiance qu'on a à se faire les uns envers les autres. Et on peut aussi penser au mariage, qui est un engagement de confiance, justement. On prête fidélité, on s'engage, on engage notre confiance dans le conjoint jusqu'au bout. Et c'est là que la foi est vitale pour le sacrement du mariage. Et c'est pour ça que c'est si important aujourd'hui de faire vivre l'expérience de foi à ceux qui se préparent au mariage, et bien pour que la foi en Dieu de plus en plus conforte leur propre foi mutuelle l'un envers l'autre. L'autre étant toujours plus grand que ce que j'en perçois finalement. Et que ses défauts, parce que les gens mariés savent bien, hein. À un moment ce qui apparaît beaucoup c'est les défauts de l'autre. Heureusement que c'est bien lui ou elle qu'on a épousé. C'est une phase qui est bonne, qui est normale dans la vie maritale. Mais elle a besoin d'être, cette crise a besoin d'être traversée justement par un regard et un acte d'amour et de foi en l'autre renouvelé. Et vous voyez que ça c'est possible si on a la foi dans le Seigneur, parce que lui va nous montrer que l'autre est plus que ce que je vois au niveau de ses défauts, son tempérament et je ne sais quoi. La foi, c'est aussi une décision. Et ça, le Père nous a souvent parlé du cœur qui décide.
Je ne vous ai pas mis, je ne crois pas, cet extrait-là sous les yeux.
Vous le trouverez à la page 275. Ce qui égare trop souvent les hommes, c'est le cœur. L'homme a la raison pour réfléchir, mais le cœur décide. Et là, le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas. La phrase de Pascal. Mes enfants, méfiez-vous, 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 je vous en supplie. Méfiez-vous d'empoisonner votre cœur, de le fausser, de le falsifier, parce que là, tout est perdu. Prenez l'exemple d'une voiture. Vous avez un bon moteur, mais si vous ne prenez pas la bonne direction, vous pouvez risquer de tomber dans l'abîme. Eh bien, c'est le cœur qui décide de la route, alors que le cœur ne décide pas en dehors de la vérité. L'esprit nous est donné pour voir clair, et ensuite le cœur décide. C'est cela la liberté, cette merveille de pouvoir choisir nous-mêmes ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien. C'est ça la liberté. Et là, le Père nous montre que la foi est vraiment un acte de décision personnelle, donc un acte de liberté. C'est ce que dit aussi Mgr Dornelas en citant la dernière encyclique. L'avenir est au respect et au dialogue. La foi n'est pas intransigeante, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l'autre. Le croyant n'est pas arrogant. Au contraire, la vérité le rend humble, sachant que ce n'est pas lui qui la possède, mais c'est elle qui l'embrasse et le possède. Loin de le raidir, la sécurité de la foi le met en route et rend possible le témoignage et le dialogue avec tous. La foi n'est pas un saut dans le vide, ni un sentiment aveugle, mais liberté étrangère à tout obscurantisme. Ça, c'est Mgr Dornelas citant la dernière encyclique. Donc, il faut s'en communiquer dans le Zénith de vendredi. Et c'était très beau dans le Zénith hier de voir combien on a mis en lien le Père Joseph avec les papes de son époque et même le notre dernier pape, qu'il connaît dans la communion des saints. Parce que ça a vraiment caractérisé le Père Marie-Joseph. Sa foi était toujours une foi ecclésiale. Il avait tellement foi dans le successeur de Pierre et que le pape est justement la voix de Pierre pour aujourd'hui et que Jésus a construit l'église sur le roc qu'est Pierre, et bien qu'il était tout le temps attentif aux enseignements du pape, y compris à ses moindres paroles. Et il nous a beaucoup aidé à justement voir clair dans les défis sociaux, économiques, culturels de son époque en citant le pape. Et je crois que ça c'est pour nous, si on veut être fidèle à la foi du Père Marie-Joseph, eh bien, il faut qu'on soit aussi vraiment attentif à ce que nous disent, à ce que nous dit le pape actuel, et puis qu'avec la grâce de Dieu, on le mette en pratique. Il faut entendre, ça, il faut aussi mettre en pratique. Alors maintenant, dans la deuxième partie de l'exposé, donc, là, j'ai commencé donc, en vous parlant de la foi dans le Dieu amour, un Dieu amour personnel qui lui vient de ses parents, de Saint Bonaventure, de Saint François, de la petite Thérèse, je n'ai pas beaucoup cité, le père, dès son tout jeune âge, dès l'âge de 18 ans, peut-être même avant, il a lu des manuscrits autobiographiques de Thérèse, il est devenu vraiment un ami de Thérèse, et il a vu combien Thérèse actualisait pour aujourd'hui la foi de Saint François, tout spécialement sa confiance filiale. Thérèse aimait appeler Dieu « Papa le bon Dieu », et bien là on trouve vraiment cette veine franciscaine, et notamment Capucine. Je pense à frère Conrad, par exemple, qui aimait aussi parler de cette confiance toute filiale en Dieu. Alors maintenant, dans la deuxième partie de l'intervention, on va un peu balayer le credo en écoutant le Père finalement commenter le credo. Alors si vous voulez, on trouve un contenu du credo à la page 65. Le Père Marie-Joseph a emmené la fraternité à Rome en pèlerinage en 72. C'était peu de temps après la proclamation du credo de Paul VI. Paul VI avait remarqué que la foi s'étiolait dans le peuple de Dieu avec la grande crise de 68 et le relativisme qui commençait déjà à faire son œuvre. Eh bien, il avait composé un credo, bien sûr qui est le credo de toujours, traditionnel, mais en mettant en lumière des points qui étaient critiqués, par exemple la question des anges. À un moment dans l'Église, on ne parle plus beaucoup des anges, or c'est une réalité de foi. Eh bien, le Père Marie-Joseph, sans vouloir imiter Paul VI, dans un de ses pèlerinages, il a formulé un credo en forme de louange. Et vous le trouverez à la page 65 du livre. Je le lis comme ça d'affilée. La merveille des merveilles, c'est Dieu. le Dieu Trinité, Dieu créateur du ciel et de la terre, son amour de Père passant à nous par son Fils Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie, sa mère. La merveille des merveilles, le Christ Jésus, Fils du Dieu vivant, qui a daigné se faire l'enfant de Bethléem pour demeurer avec nous. La merveille, c'est la passion du Sauveur, son œuvre de rédemption, leur mémorial, la très sainte Eucharistie, sa mystérieuse présence parmi nous, son œuvre de salut jusqu'à la fin des temps. La merveille, la Vierge Marie, la très sainte Mère du Christ, notre Mère, et là vient l'expression dont je vous ai parlé tout à l'heure, vivante expression de l'amour maternel de Dieu pour nous. La merveille, l'Église, peuple de Dieu, le Christ total, corps mystique du Christ, nous-mêmes, dans la grâce de notre participation à la nature, à la vie de Dieu, nous-mêmes en état de grâce. La merveille, c'est Pierre, le pape, premier témoin, maître et gardien suprême de la foi intègre et intégrale, authentiquement fidèle au Christ, le Père et le pasteur de nos âmes. Laissons-nous aller à une attente joyeuse des enfants, allant rencontrer le meilleur des pères, le Saint-Père. Donc ça, je suppose, c'était avant la rencontre avec le pape Paul VI. Donc le Père avait préparé la fraternité à la rencontre du pape, et il avait donc développé, vous voyez, le credo sous une forme de louange. Et je crois qu'on peut revenir, si vous avez le livre, à ce texte régulièrement, ça peut nous aider à exprimer notre foi en forme de louange, justement. Et là, vous venez de retrouver tous les thèmes que j'ai un peu développés au début, notamment cette bonté débordante de Dieu, hein, qui s'abaisse en Jésus, qui va jusqu'à l'incarnation, la passion et l'Eucharistie. Donc vous êtes tous Saint François, en fait, dans ce credo. Alors maintenant, je vais reprendre quelques morceaux, bien sûr, parce que je ne veux pas trop que je me prolonge. Il reste encore 10 minutes, hein, pour vous un petit peu de temps de souffler avant le repas. Le Père Marie-Jeanne aimait beaucoup puiser à la foi des saints. Et ça aussi, c'est une des sources. Si on veut nous aussi approfondir notre foi, lisons le témoignage des martyrs, anciens et contemporains. Je vois actuellement, pardon, il y a le très beau témoignage de ce premier ministre pakistanais, non, il n'était pas premier ministre, c'était ministre pour la liberté religieuse, je crois, au Pakistan. Hein, c'est important d'être toujours au fait de ces martyrs actuels qui nous aident et qui nous prennent par la main, comme disait le Père, dans notre témoignage de foi pour aujourd'hui. Pensons aussi au témoignage de Nicolas, actuellement en prison, pour avoir simplement veillé pacifiquement. Et le Père aimait, par exemple, la foi des gens tout simples. Il cite un exemple, une dame, Anna, qui, je ne sais plus si elle vivait à Saint-Conrad, mais en tout cas elle était d'habiter Beach, pour ceux qui... Et qui avait une très grande dévotion aux âmes du purgatoire. Elle priait énormément pour les âmes du purgatoire, et elle était concrètement aidée aussi par ses âmes en retour. Et le Père nous mentionnait cette femme toute simple, très âgée déjà. Et pour nous les jeunes, quand on voyait justement ces aînés dans la foi, ça nous parlait beaucoup. Il y avait les aînés en fraternité, bien sûr, qui étaient aussi déjà des soutiens, mais même des gens extérieurs à la fraternité qui étaient un exemple. Et ça, je crois que c'est au niveau de notre fraternité, c'est important, ce témoignage de foi entre les générations. Et c'est très fructueux. Et il parlait notamment de Sainte Bernadette. Et il disait de Sainte Bernadette, où le chapelet était prié chaque jour en famille. Et bien, la petite Bernadette, elle ne savait pas lire ni écrire. Et donc, du coup, elle n'avait pas pu faire sa première communion parce qu'elle ne savait pas lire le catéchisme. Donc, elle n'avait pas su l'apprendre. Mais par contre, le Père dit, elle avait appris par ses parents, sa maman notamment, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo. Et là, elle avait tout. Est-ce que nous, en dehors de la messe, on pense à prier le Credo, hein, pas simplement à le réciter le dimanche, à le confesser le dimanche, mais vraiment à le prier en y mettant toute notre foi. L'année de la foi se termine en novembre, on a encore un peu de temps pour s'exercer si on n'a pas encore fait beaucoup fait jusqu'à maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Avec la première partie de l'entretien, on a vu combien la foi du Père, dans ce Père Tout-Puissant, débordant d'amour, de miséricorde, était très présent. Mais Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, l'univers invisible, le Père y croyait, notamment à l'ange gardien. Et on raconte ce témoignage qu'une fois un jeune couple vient annoncer au père la naissance, pas la naissance, le fait qu'elle est enceinte, Et aussitôt le père se lève et s'incline profondément devant la jeune maman. Et ils sont un peu surpris, on peut les comprendre. Et le père leur dit aussitôt, vous savez ce que je viens de faire? Eh bien, je viens de m'incliner devant l'ange gardien qui est là et qui accompagne déjà votre tout petit dans votre ventre. Le père avait vraiment cette foi dans les anges et qui lui vient aussi de Saint François. Relisez des textes de Chelano sur la foi de François dans les anges et notamment la foi en l'ange gardien. Il croyait en l'univers invisible, mais bien sûr aussi visible, et le fait que l'homme et la femme aient été créés à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Aux pages 293-294, je le cite, « Si on veut tout comprendre par la simple raison humaine, on ne comprendra jamais rien au mystère de la Sainte Famille. Mais dans la lumière de la foi, nous savons que Dieu est capable de tout faire dans sa bonté. » Il a créé l'homme selon son image. Homme et femme, il les créa. Dans cette lumière, les choses changent. Après, il cite Mgr Julien, qui était responsable de la pastorale familiale en France à cette époque, qui disait déjà « La famille est malade ». Il parle déjà de l'effondrement de la famille dans beaucoup de pays. Et alors le père, on voit combien autant il va nous avertir de ce danger qui est l'effondrement de la famille, autant on le voit réagir dans la foi, et notamment dans la foi en la Sainte Famille. Et voyez ce qu'il dit, il y a des moments dans l'histoire de l'Église où l'Esprit Saint nous éclaire sur certaines réalités de la foi que nous avons héritées depuis les origines, parce qu'elles deviennent nécessaires à de tels moments. Nous vivons certainement un temps où une prise de conscience plus nette de la réalité divine qu'est la Sainte Famille est devenue d'une extrême importance. Le Père a eu foi en la Sainte Famille, on l'a beaucoup développé l'an dernier, donc je n'y attarderai pas. Mais on voit bien que sa foi, vous voyez, elle est en réaction avec la maladie de la famille. Et donc du coup, la Sainte Famille lui est donnée comme un remède de foi à ce problème et à cette crise. Et là aussi, le Père était prophète, on peut le dire. Le pape François, récemment, vient de demander à tous les prêtres que dans chaque prière eucharistique, on nomme maintenant Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et c'est la Sainte Famille, bien sûr, qui est derrière, hein, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres, etc. Et on voit de plus en plus que notre temps va être sous la Sainte Famille. Et voyez ce que le Père disait aussi, c'est aussi un acte prophétique, alors qu'il dit le contraire. Et ça, c'est son humilité. Cela viendra. Je ne suis pas prophète, mais ça viendra. Les familles vont se réveiller. Le seul regard du cœur sur l'icône de la Sainte Famille purifie déjà, entraîne, élève. Hein, cela viendra, les familles vont se réveiller, bien c'est ce qui se passe depuis un an maintenant dans notre pays, où vraiment des familles se lèvent pour redire la beauté de l'amour humain, de la richesse, comme dit le pape, dans sa dernière encyclique, c'est quand même un peu fort, mais c'est quelqu'un qui vivrait il y a 200 ans se demanderait pourquoi le pape dit ça. Le pape dit simplement, le mariage, eh bien, c'est vraiment l'union stable entre un homme et une femme, qui sont conscients que la différence sexuelle est une richesse. C'est le bon sens, mais même le pape, j'ai oublié de le rappeler dans son encyclique sur la foi, et je pense bien sûr ses yeux à tout ce qui s'est passé en France ces derniers temps. Mais ne le prenons pas comme toute cette crise qu'on traverse en ce moment-là. Je crois que le Père nous aurait dit, vivons-la dans la foi justement, ça réveille notre foi, et ça va nous permettre d'approfondir cette différence, la richesse de la différence sexuelle finalement. Et c'est ça l'antidote qui va aussi sortir de cette grave crise qu'on traverse. Ensuite, bien sûr, dans le credo, il y a l'incarnation. J'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas m'y attarder avec l'Eucharistie. La Vierge Marie. Pour le Père Marie-Joseph, le Fils de Dieu s'est fait homme en Marie, et c'est pour ça qu'il aimait beaucoup Marie, comme Saint François. Et il nous dit que la foi qu'on a reçue au baptême, elle nous fait dire à la fois papa au bon Dieu, comme Sainte Thérèse, mais elle nous fait dire aussi maman à la Vierge Marie. C'est la page 285 du livre. Par la grâce de la foi du baptême, que notre cœur instinctivement aille vers notre maman. Et ça, je ne l'ai jamais eu non plus actuellement chez un théologien, ou un saint, ou une sainte. Et là, je crois que c'est vraiment à creuser aussi dans la caractéristique de la foi du Père, de voir que la grâce du baptême nous permet d'appeler aussi Marie, notre maman du ciel. L'homme n'est heureux que si son cœur repose en Dieu, et pour reposer en Dieu, la logique de la très sainte Trinité, c'est de nous faire passer. traversé par Marie. Et là, il nous donne une explication sur son acte de foi à lui. Ne vous laissez pas arrêter quand vous ne la sentez pas. Cela ne veut rien dire, sentir ou pas sentir. C'est la foi qui nous donne non seulement le droit, mais le devoir de vivre de cette façon. Donc vous voyez, la foi dépasse toujours le sentiment ou l'absence de sentiment que j'ai. Elle dépasse même les questions que je me pose. Et dans la nuit de la foi, même dans le doute, un acte de foi permet de toucher Dieu, et Dieu se donne, et il éclaire la nuit. Comme disait François dans son encyclique, il n'enlève pas la nuit, mais la foi va être cette petite lumière qui va nous guider pas après pas. C'est ça la lumière de la foi. Hein, ce n'est pas un soleil finalement où tout devient visible et clair et compréhensible. Ça c'est pour l'éternité, hein, c'est la vision de Dieu, la vision béatifique. Ici-bas, la foi, c'est cette petite lumière qui éclaire chaque pas et qui nous permet de faire le pas dans la foi et l'un après l'autre. Bien sûr, le Père avait foi dans le Christ mort et ressuscité. Je n'ai pas le temps de le prendre, mais vous pourrez relire à la deuxième page du texte que vous avez sous les yeux sur les martyrs. Et le cœur de ce texte, c'est la foi dans la mort, dans le Christ mort et ressuscité. Mais ces textes, je les ai donnés aussi comme ça pour ceux qui vont prolonger maintenant dans la semaine des familles. Et bien, ça peut aussi nourrir votre prière, votre témoignage. N'hésitez pas à reprendre ces textes dans la prière et la méditation. Et la foi du Père Marie-Joseph était nourrie du coup par cette consécration à Marie et ce renouvellement régulier de sa foi en Marie qui le plonge dans le Christ et la Trinité. Le Père a aussi foi dans la résurrection de la chair. Et il nous emmenait souvent saluer les parents des saints dans le cimetière ou alors aller simplement prier sur les tombes. Et là, il nous disait, pourquoi est-ce qu'on va auprès d'une tombe? Bien sûr, la personne ne repose pas ici, hein, puisque la personne, c'est le jeu profond, c'est l'âme qui est auprès de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient? Eh bien, parce que c'est avec ce corps que les saints, ou simplement les chrétiens qui ont aimé jusqu'au bout, eh bien, ont aimé jusqu'à l'usure. Et comme un vieux vêtement, ce corps repose ici en attendant d'être restauré dans la résurrection. C'est aussi la raison pour laquelle, lors de funérailles chrétiennes, eh bien, on encense, on bénit le corps. Hein, c'est l'hommage qu'on rend à l'Esprit Saint qui a été le temple, hein, le sanctuaire de ce corps et qui a promis ce corps à la résurrection. C'est avec ce corps-là que je ressusciterai et que je serai transfiguré, même si l'état du corps ne sera pas le même. Personne n'a l'idée d'un corps glorieux, spirituel, ici-bas. On en a un petit peu l'idée en voyant Jésus ressuscité, mais ce n'est pas une expérience, c'est clair. Mais ce sera vraiment avec ce corps avec lequel on a aimé, et avec lequel on s'est donné, bien qu'on se verra et qu'on se réjouira les uns des autres au ciel. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je vous ai déjà parlé de la foi dans le Père, de la foi du Père dans l'Église comme communion hiérarchique. Communion, c'est tout l'aspect fraternel de l'Église. Et Dieu sait s'il insistait sur le fait qu'on est frères et sœurs, qu'on se reçoit comme frères et sœurs, qu'on est de plus en plus frères et sœurs quand on est unis à Jésus, et qu'on est appelé en tant que fils de Saint François à être frères et sœurs de tout homme. Mais cette communion, elle est hiérarchique. Elle se reçoit d'en haut, elle se reçoit du mystère. Et là, c'est toute la foi du Père dans le successeur de Pierre, ainsi que dans les évêques. Hein. Je prends par exemple ce qu'il disait lors du passage de Mgr Raffin une fois à Vich. Vous le savez, la personne de l'évêque, c'est pour moi la voix et le cœur du maître et du bon pasteur. Et il citait Saint François aussi qui disait, si un prêtre passait et un ange, il saluerait d'abord le prêtre. Si on savait, dit le curé d'Ars, ce qu'est le prêtre, on mourrait de joie. Alors, avec François, nous aurons toujours le respect du prêtre. Mais dans son enseignement, nous ne suivrons le prêtre que s'il est un humble porte-voix et fidèle porte-parole de la hiérarchie. Donc, c'est le prêtre en communion avec les évêques, le Saint-Père et l'Église. Et il ajoute, remarque sage de nos jours, où certains joueraient volontiers au petit pape ou au prophète. Donc, elles sont toujours présentes chez les clercs. Cette Église dans laquelle le Père croit, elle est à la fois communion fraternelle, hiérarchie, mais elle est aussi missionnaire. Et je vais m'arrêter avec cet aspect-là. Le Père était un très grand missionnaire. Dès qu'on lui confie la fraternité de Bich dans les années 33-34, il perçoit que c'est une mission divine qui lui est confiée. Et il va l'appeler « ma mission ». Et quand on lit les textes qu'il écrit, enfin c'est surtout des lettres, soit à sa sœur Rosalie, soit aux premières consacrées de la fraternité, le mot « ma mission » revient sans cesse. Et entre nous, je pense qu'il a repris ce mot de la petite Thérèse elle-même, qui parle de « ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime et donner ma petite voix aux âmes. » Aimer et être aimé, dit le Père, pour aimer et faire aimer l'amour. Tel est le rêve suprême de Thérèse. Alors, quelle sera la mission du Père? Ce sera bien sûr aussi aimer et faire aimer l'amour. À la fin de sa vie, il nous a appris la prière du pur amour du Saint Curé d'Ars, « Je vous aime, mon Dieu », une prière qui est une vraie litanie et qui chante l'amour du Seigneur. Et la mission du Père, ce sera d'être un apôtre de l'ordre franciscain séculier. Il va dire, par exemple, en 39, pendant la drôle de guerre, où il nous dit que combien la messe est le cœur de sa journée, de chacune de ses journées, c'est là qu'il puise aussi la grâce de faire confiance et courage. Et il dit à cette personne, « Néanmoins, je crois que ma mission n'est pas finie. Tu me comprends? J'étais en train de fonder chez nous cette magnifique œuvre du tiers-ordre. Elle débutait si bien. » Aussi j'attends du bon Saint Joseph, l'avocat des causes désespérées, qu'il fera le miracle et me protégera, ainsi que ceux et celles qui sont avec moi, ainsi que ceux et celles qui, avec moi, se sont totalement consacrés au règne du Christ par le tiers ordre. Ah, donc on voit la conscience de la mission qu'il a reçue. Puisqu'elle vient de Dieu, il sait que le Saint le protégera, même s'il demande à Saint Joseph de l'aider. Et vous voyez que cette mission, c'est quoi? C'est se consacrer au règne du Christ par le tiers-ordre. Pour lui, l'ordre franciscain séculier va être vraiment l'outil, l'instrument pour faire régner le Christ dans les cœurs, pour réveiller François qui parle d'être et réveiller l'amour de l'enfant Jésus endormi dans bien des cœurs. Ben pour le Père, c'est pareil, sauf qu'il va l'appeler lui par le mot règne, règne du Christ, règne de Dieu. C'est l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. Ailleurs, il dit ma mission, conquérir beaucoup d'âmes au Christ de l'âme franciscaine, fonder et soutenir et lancer tout un groupe d'apôtres 100% du tiers-ordre. Dans une autre lettre, prie pour moi et à mes intentions, tu sais surtout pour mon œuvre, ma mission. Je t'en ai donc parlé, j'aimerais tant être l'apôtre du tiers-ordre, conquérir beaucoup d'âmes à l'amour, au règne du Christ par Saint François. Cette communion missionnaire de l'Église, on l'a également dans une lettre, si vous la trouverez à la page 157-158, qui est un vrai appel à la vie. Et je crois qu'on peut l'entendre nous aussi dans cette période d'étape, de changement pour notre fraternité, avec l'érection prévue donc de nos cordées. Le Père demande qu'il y ait de la vie. Et il faut que nos cordées vivent dès maintenant. Il ne faut pas attendre d'être érigé en fraternité pour vivre de la vie de Dieu, bien sûr. Alors je vous lis ce texte-là. « J'ai promis de me consacrer avec toutes mes forces et mon total dévouement au développement, c'est la croissance, et à la maturation de la communauté, donc croissance en nombre et en qualité. En tant que fils de pieux parents tertiaires, je dois sans doute, tout comme mes deux sœurs religieuses, la sainte grâce de la vocation à l'ordre franciscain séculier à ma mère. » Qui s'est endormi dans le Seigneur. Du bien a été réalisé, Dieu en soit remercié. Continuons avec confiance et courage. Cette année encore, notre grand et ardent désir sera faire naître une vraie et authentique vie franciscaine de la vie. J'ai terminé avec la communion des saints, juste en disant deux mots, vous la trouverez dans le texte sur les martyrs. On sait la présence de Thérèse, de Saint Joseph dans sa vie, des saints qu'il disait. Et finalement, s'il s'est tellement nourri des saints, c'est pour, à leur suite, eh bien, être confiant et avoir du courage dans la vie qui lui était donnée de vivre. Alors je crois qu'on peut nous aussi garder ça dans le cœur pour terminer. C'est vraiment comme le forgeron qui devient de plus en plus forgeron en forgeant. Eh bien, on va devenir de plus en plus croyant, nous aussi en croyant, en posant des actes de foi, des actes d'amour confiant, filiaux, et en croyant à notre mission de croissance de l'OFS et d'annonce de l'Évangile dans le monde.